Bonjour et bienvenue à la 8e épisode de la French Connection. Aujourd'hui avec moi, Patrick, j'ai Nicolas. Salut Nick.
Hey, salut.
Et Richer. Salut Richer.
Salut.
Pas présent aujourd'hui, Guillaume est trop de job, Damien est en vacances et Paul est à quelque part. Ce mois-ci, énormément de nouvelles, vraiment beaucoup. Donc, on a un bon petit rush de nouvelles et ensuite, discussion géopolitique intéressante. Donc, pour débuter, je laisse Richer débuter.
Donc, comme c'est là, on a une nouvelle par rapport à Let's Encrypt qui vont pouvoir déployer, premièrement, leur API version 2, ce qui va pouvoir permettre de pouvoir faire du provisionnement automatique au niveau des compagnies. Tout ça, ça va être très pratique. Et dans le fond, c'est une standardisation au niveau de l'IETF pour être sûr de mettre ça tout propre et tout correct et selon les bons standards. Et aussi, comme autre nouvelle par rapport à eux autres, ils vont pouvoir déployer un wildcard, un certificat wildcard. Donc, finalement, ça va pouvoir permettre de pouvoir avoir plusieurs sous-noms de domaine sous le même domaine avec un seul SSL. Donc, c'est une excellente nouvelle, très pratique pour éviter d'avoir à déployer et à demander plusieurs certificats pour chacun des noms de domaine et pour les serveurs qu'on veut pouvoir mettre SSL dessus. Donc ça va être très pratique. Tu as juste besoin de pouvoir en faire un et d'en renouveler un ou d'en renouveler 45. Donc ça, c'est une excellente nouvelle.
Oui, exact. Puis en plus, justement, au lieu de mettre 12 noms de domaine dans un certificat ou de le renouveler à tout bout de champ, qui est un nouveau domaine, ben, tu le fais juste une fois puis ça te renouvelle aux 3 mois. Super cool. Et ça coûte énormément cher, généralement. Fait que ça va être super utilisé, logiquement.
Oui, exactement. Donc, parce que normalement, pour pouvoir payer ça, c'est normalement au moins 100 dollars, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas plus, dépendamment des compagnies avec lesquelles on fait affaire pour pouvoir avoir un certificat SSL. Donc, à ce moment-là, c'est une excellente nouvelle et probablement que ça va donner un coup sur les prix des autres, peut-être, ou peut-être que ça ne changera rien, mais pour l'instant, moi, je continue d'être intéressé de pouvoir utiliser Let's Encrypt.
Excellent. Une nouvelle au Canada, si on y va au niveau de la CAL, le marché Alphabet, qui est un dark market, a été mis down dans les dernières semaines. Ils ont réussi à arrêter les personnes qui hostaient le site web en question. Il s'agit d'un Québécois de Trois-Rivières qui vivait en Europe depuis plusieurs années, je crois 6 ou 7 années. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison et ils l'ont retrouvé mort, suicide après quelques jours en prison. On s'entend, là, c'est un geek qui gérait des trucs de black market qui se ramasse dans un d'emprisonnement de relié aux ventes de drogue, fusils, biens illégaux, etc., etc. Et les autorités, justement, c'est États-Unis, Canada et Thaïlande qui sont allés contre lui pour le ramasser. Donc, c'était un peu intense. C'est quand même spécial de voir que c'est quelqu'un du Québec là, qui gérait ça. Donc, voilà. Vous pouvez suivre le dossier dans les show notes. Il risque d'avoir beaucoup d'histoires reliées à ça. À suivre, en fait. Et la chose à noter, c'est que la personne en faisant le site web a obtenu plus ou moins 12 millions de dollars. Quand ils ont fait l'arrestation, il y avait 4 Lamborghini, 3 maisons, le tout d'une valeur d'environ 11 millions de dollars. Donc, ça a l'air que ça roule, faire des sites web sur le dark market. Autre nouvelle, Canada, puis celle-là, on tombe un peu dans le géopolitique, mais qui est un peu drôle. En fait, il y a sûrement beaucoup de choses en arrière de la table qui fait du sens, mais publiquement, je ne sais pas trop. Accord entre le Canada et la Chine pour faire un pack pour ne pas s'attaquer au niveau cybersécurité. Pas sûr, non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais je veux dire, par défaut, le pays ne peut pas contrôler tout le monde, évidemment, mais en même temps, je veux dire, connaissant la Chine et autres, pas sûr que ça va faire du sens et que ça va tenir longtemps.
Ben, ça veut aussi peut-être dire qu'on n'est pas une cible intéressante.
Il y a bien des chances aussi, oui, ça pourrait faire du sens. Mais en même temps, qu'est-ce qui veut dire qu'ils feront pas quelque chose pareil, je veux dire, même si on signe un bout de papier? S'il y a un enjeu, une compagnie qui veut avoir accès, c'était, je pense, c'était en 2008 qui avait détecté la Chine dans la plupart des ministères fédéraux.
Ouais, ben il y avait une nouvelle comme ça, mais en même temps, l'attribution dans le cyber est excessivement difficile à obtenir. T'sais, on peut pas prétendre facilement que la Chine est en arrière de toutes les attaques ou la Russie ou peu importe le pays méchant qu'on veut nommer, là, mais c'est toujours l'attribution est toujours un problème parce que c'est très difficile.
Oui, c'est impossible. Fait qu'on utilise justement là, les dés d'attribution, on roule ça, puis ça tombe soit la Chine ou la Russie, ouais. C'est pas mal ça que tu as fait. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner officiellement. Si je veux dire, s'il va y avoir quelque chose qui va ressortir de ça, et pas juste un pacte qu'ils ont signé, puis que tout le monde est oublié. Aucune idée ce que ça va faire. Pour continuer, géopolitique, est-ce que tu nous débites un peu la saga Russie-États-Unis, Nick?
Alors, c'est une belle suite à ta propre histoire. C'est dans un temps de très peu de temps, Trump a annoncé une forme d'accord avec la Russie pour collaborer sur des équipes de cyber intervention, d'une force tactique cyber. Quand il s'est dédié quelques heures après, tout à fait à la Trump, finalement, dès qu'il a senti que le vent n'allait pas tout à fait dans la direction qu'il voulait. Puis c'est un peu absurde de vouloir faire un accord avec la Russie étant donné que ce que son prétendu hacking des choses d'Hillary Clinton, puis qui suppose que encore ils ont modifié les élections américaines. Donc ça fait un peu un drôle de décision. Puis même à ça, ensuite, les niveaux du Congrès américain, ils se sont fâchés tout de suite, puis on décide de passer une loi qui empêchait les États-Unis de partager des informations cyber avec la Russie. Fait qu'on est trouvé dans une espèce de grand bruit immense par rapport à ce genre de choses-là. Puis pour faire un peu de pouce sur ce que tu disais, le Canada versus la Chine, est-ce que on peut vraiment faire confiance à n'importe quel autre pays, là, je parle pas sur le dé d'attribution, il y a les standards, mais même au-delà de ça, je pense que les pays entre eux autres sont encore suffisamment non contrôlés au niveau du cyber que je pense pas qu'aucun pays, même occidental, peut être de confiance à ce sens-là où on va utiliser des méthodes masquées pour aller chercher l'information quand même. Puis il faut aussi faire attention entre la doctrine militaire en tant que telle puis la doctrine d'espionnage qui est une forme de tolérance à l'intrusion.
Parce qu'il y en a eu beaucoup, justement, tout avec les ligues de la NSC, c'était sous le couvert, justement, de l'espionnage. Au lieu d'utiliser du warfare pour mettre des micros un peu partout, ben ils utilisent tout ce qui existe au niveau Internet, puis ils s'en vont mettre des exploits puis des backdoors sur les téléphones, sur les systèmes internes, électricité, hydro, whatever. Là. Fait que.
Ouais, c'est en plein ça. Puis il n'y a rien qui, au niveau des traités internationaux, qui limite l'utilisation de technologies d'espionnage. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est très difficile même d'attribuer le type d'intervention puis lui donner la bonne catégorie, donc le bon cadre légal pour intervenir, donc le bon traité. T'sais, le traité avec la Chine peut-être peut spécifier que pas d'attaque ouverte, mais il n'y a rien qui dit qu'ils peuvent pas faire d'espionnage contre nous autres.
Oui, exact. Mais en même temps, je veux dire, l'espionnage, ça reste une loi qui est au niveau du pays, puis ils peuvent se donner le droit de bypasser leur propre acte qu'ils viennent de signer. Toutes les lois en arrière de la NSA, ça bypasse pas mal tout le reste. Donc,
ouais, évidemment. La NSA est rendue un gros monstre incontrôlable. Je veux dire, ils réussissent très bien dans ce qu'ils ont à faire. Mais le problème, c'est qu'on ne leur a pas donné des limites claires sur où ils doivent arrêter. Donc, ils vont trop loin.
Ouais, ils ramassent qu'est-ce qu'il y a sur le fil. Puis, c'est pas mal ça, la règle.
À peu près à tout.
yes.
Si on mais avec ouais. Ça, puis la conséquence, là, juste pour terminer avec l'élément géopolitique, c'est l'élément, le collatéral à ça, c'est tout Kaspersky qui a tout perdu sa capacité de vendre aux États-Unis, du moins au niveau du gouvernement américain, sous le couvert de... Il y aurait eu des accusations comme quoi il aurait travaillé avec les services secrets russes à ce moment-là pour transférer l'information, donc ça voudrait dire que les produits de Kaspersky auraient probablement été teintés au niveau de, la, de l'information qu'ils sont capables de rapatrier. Donc, d'un point de vue sécurité nationale, c'est très difficile de justifier l'acquisition d'un produit qui, dans lequel un pays, pas ennemi, mais un pays avec qui on a un différent, des rapprochements trop proches. Hein. Puis au même titre que les pays de comme la Russie peut avoir peur de Microsoft, par exemple, parce que Microsoft peut avoir des liens un peu trop forts avec le gouvernement américain.
Oui, exact. Puis il y a certains pays justement qui ont décidé de créer leur propre OS pour leur gouvernement pour pas qu'ils utilisent du Windows. Fait que oui, l'impact peut être assez énorme là, relié à ça. Là. On peut jamais deviner qu'est-ce qui se cache en dessous là. Avec toutes les, en plus les failles assez récentes qui ont été trouvées au niveau des puces Intel qui avaient des backdoors directs dans le hardware. Fait que ça va loin. Là.
C'est très difficile à mesurer ou comment on peut faire confiance à des produits qui viennent d'autres pays. Puis là, ça tout le Snowden, mais tous ces éléments-là, ça amplifie cette méfiance-là que les différents pays sont en train d'avoir. Puis ultimement, ça va pénaliser davantage les Américains comme pays que les autres, parce que tous les autres pays vont en train d'investir massivement en TI quand dans les dernières années, ils ont beaucoup fait, se sont assis sur le wagon américain pour avancer dans les TI.
Oui, exact. Puis une note hors contexte, j'ai écouté justement le film d'Edward Snowden, pas le documentaire, mais vraiment le film. C'est quand même bien. Si vous voulez écouter ça, gênez-vous pas. Ça résume bien l'histoire. C'est pas 100% parfait sur les faits actuels, là. Mais ça résume énormément ce que la personne avait accès, puis qu'est-ce que la NSA a accès, puis ça fait peur. Donc, si vous voulez voir ça, gênez-vous pas. Pour continuer un peu le concept géopolitique, si on se déplace en Ukraine, on a vu dans le dernier mois l'attaque de Petya, NotPetya, whatever le nom, comment on le prononce, mais le ransomware, qui n'est pas un ransomware finalement, mais qui était un fake ransomware qui mettait le système par terre, donc qui encryptait à partir du MBR l'ordinateur, puis volontairement, ils se sont lockés out, ils ne pouvaient pas donner de clé à personne pour restaurer les ordinateurs, donc nécessairement, les données étaient perdues. Ça a fait un lien avec la Russie que, techniquement, attribution, ce serait peut-être eux qui auraient mis ça en place, puis que ça démontre leur pouvoir pour attaquer l'Ukraine. Il faut comprendre en même temps que l'Ukraine est comme un pays qui sert comme de entre la Russie, l'Europe, NATO, etc. Donc, c'est vraiment de la politique, de l'attaque au niveau politique international. Là, c'est un peu intense. Fait que tout pointe vers le concept d'une cyberattaque et non pas juste d'un ransomware avec un mauvais programmeur qui n'a pas été capable de garder son courriel pour donner les clés, pour déchiffrer les choses. Et en même temps, justement, parlant de NATO, ben NATO a offert à l'Ukraine d'offrir des services de cybersécurité pour attaque et défense. Donc, beaucoup, beaucoup de mouvements politiques, US, Canada et Europe, Russie.
Mais ça se transforme vers fou, beaucoup là. Dans le monde militaire, le cyber actuellement. Là.
C'est extrêmement militaire, puis espionnage en même temps. Mais les deux sont tellement proches que souvent, justement au niveau de l'attribution, c'est presque impossible à deviner puis à déduire qu'est-ce qui est quoi. Mais non, le militaire est incroyable présentement. Là. C'est les pays s'infiltrent un peu partout pour justement contrôler les infrastructures critiques. Puis on va le voir de plus en plus apparaître. Là. Comme l'Ukraine.
Ouais, ça change complètement la donne.
Oui, exact. Plus de frontières, juste des exploits avec du fuzzing. Puis on peut faire du dommage qui n'a aucun sens.
Ça n'a vraiment aucun sens. Ça. Mais on change complètement de donne. Là. Tout ce qu'on voyait dans les films de science-fiction est en train de se matérialiser. Les pays sont en train de s'armer au niveau cyber de façon réelle. Puis le Canada, autant que les autres pays, doivent le faire, peut-être sans la connaissance des citoyens, mais quand même, on doit participer à ça aussi.
Oui, exact. Puis si on parle du Canada, ils ont sorti publiquement dans le dernier mois le programme pour créer un team d'offensive, d'attaque au niveau militaire contre les autres pays, etc. Bienvenue en 2000, le Canada. Félicitations. Et ce qui est terrible de ça, c'est que quand on regarde les papiers qui sont diffusés sur le web, tu sais, je suis vraiment content que ça arrive, sauf que le bug, c'est que le projet a été soumis en 2009 sur Internet. Donc, le projet doit dater de 2005-2007, plus ou moins, puis ils viennent de le mettre en place en 2017.
J'imagine qu'à bien des égards, on se sent trop proche des Américains, donc on se sent protégé par les Américains, donc on sent qu'on a moins besoin de mettre des efforts.
Oui, mais en même temps, je veux dire, le Canada a toujours été réputé pour être extrêmement bon au niveau de l'espionnage, même que personne pense qu'on fait de l'espionnage, puis ça a l'air qu'on est bon. Aller au côté offensif, ça fait quand même du sens. Le seul problème présentement, c'est que les civils sont zéro inclus dans cette initiative-là. Donc, c'est seulement offert aux militaires, soit les nouveaux ou les anciens. Donc, on va voir beaucoup, beaucoup de militaires sûrement dans les événements de sécurité prochainement.
Ouais, mais c'est classique. Les militaires vont vivre dans une caste à part dans laquelle on a peu ou pas accès à leur technologie. Puis, c'était comme ça avant dans le monde cinétique. C'est encore comme ça dans le monde cyber. Sauf que le monde cyber, c'est beaucoup plus grave parce que ça affecte tout le monde. S'ils viennent commencer à hacker mon thermostat intelligent puis commencer à s'en servir pour attaquer la Russie, je suis comme un dommage collatéral qui je trouve pas très agréable d'être dans l'équation.
Non, exact. Puis d'un autre côté, quand on parle de recrutement, si on, mettons, vous décidez d'aller dans cette équipe-là, vous devez devenir militaire, vous devez faire le training militaire d'une personne qui va au front, carrément. Mais ce que les US sont en train de mettre en place, puis il y avait eu, je pense, une nouvelle il y a 2-3 mois sur ça, c'est d'enlever le training des Marines pour donner l'accès direct aux ordinateurs. Parce qu'on s'entend que la plupart des geeks, nerds ou whatever hackers qui veulent aller vers ça ou qui ont le talent pour ça, ils n'ont pas toujours l'intérêt de faire 8 km de course à tous les matins. Donc, ils sont en train de mettre en place une dérogation pour passer à côté. Beaucoup de militaires sont fâchés, mais en même temps, c'est sûrement la meilleure décision s'ils veulent avoir une bonne équipe et non pas juste du recyclage de personnes en IT qui sont pas en hacking.
OK.
À voir ce que ça va donner.
Non, c'est ça, mais c'est justement ça aussi, parce qu'en réalité, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à faire ça, puis qui est en forme, comme qui ont la capacité physique de pouvoir faire ça, mais ils ont quand même le cerveau pour pouvoir le faire. Donc, il faut que ce soit plus ouvert et non pas juste fermé à un entraînement militaire conventionnel.
Oui, exact. C'est juste ça qui est plate au niveau Canada. Cette tendance-là risque de reprendre plusieurs années, considérant que l'équipe de sécurité est en train de se faire monter cette année. Donc, la dérogation, je ne suis pas sûr qu'elle va être 2017. Mais à voir, mais c'est quand même intéressant de voir que le niveau offensif est apparu au Canada finalement. Parlant d'offensif, une autre nouvelle, Eternal Blue, la vulnérabilité qui avait été leakée justement de la NSA. Ils ont sorti un scanner, en fait, quelqu'un a développé un outil pour scanner la plupart des hosts sur Internet pour voir justement combien de machines exposées publiquement sont vulnérables. Et quand on regarde les statistiques, sur environ 8 millions d'IP, il y en a 60 000 de vulnérables et 260 000 avec SMB V1 d'activé. Tout ça sur 540 000 adresses IP qui ont répondu.
Donc, c'est terrible que les systèmes demeurent actifs aussi longtemps que ça sur des vieilles technologies. Je pense qu'on n'a jamais réfléchi comme ça. On se retrouve avec une espèce de bug de l'an 2000, mais avec des vieilles technologies qui persistent encore.
Oui, ça a aucun sens, mais ça revient toujours au petit concept de, mettons, dans les notes de Microsoft, whatever. C'est peut-être pas à jour recommandé, mais ils disent pas que c'est non recommandé de le mettre en place. Là, ils viennent de le faire, mais ça l'était pas. Pareil comme pour les mots de passe, la longueur, quand on va sur le site de Microsoft, je sais pas s'ils l'ont ajusté encore, là, mais ils disent, c'est 8 minimum, c'est correct. Mais c'est pas vrai que c'est correct. C'est sûr que quand on continue à lire leur documentation, ils recommandent effectivement des passphrases de 20, 25 et plus. Mais il y a une ligne à quelque part qui dit 8. Puis on est pogné avec ça encore. Mais c'est la même chose sur le SMB1 et autres, les vieilles technologies, tout est en place pour ça. Il n'y a jamais eu de push pour upgrader ou discontinuer. Là, on n'est jamais avec la vieille patente. Puis exposé sur le web, en plus, c'est même pas interne.
Ah non, c'est terrible. Mais on garde nos technologies trop longtemps. Parce que quand on a développé ces technologies, puis je pensais que les mainframes, que l'an 2000 allait nous réveiller sur le fait qu'il fallait réfléchir plus que 30 secondes en avant de nous autres en TI, parce que les technologies qu'on développe sont utilisées excessivement longtemps. Puis souvent bien au-delà de ce qui a été fait initialement. Puis on continue à persister à faire des vieilles affaires qui résistent pas dans le temps, puis qui s'écroulent, puis qu'on reste pris avec.
Oui, exact. Puis avec effectivement toute la mode en plus de IoT, qui est des objets connectés, oui, mais qui sont déconnectés souvent du réseau en tant que tel, ou physiquement là, plus compliqué à gérer. Bien, quand ces machines-là sont pas facilement upgradables, que c'est des boîtes noires, ben là, on reste jamais en 10 fois pire encore avec ces vieilles technologies-là. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que souvent, ben, c'est des infrastructures critiques, médicales ou autres qui vont être de ce type-là. Fait qu'on s'aide pas pantoute personne, mais en espérant que ça change un jour. Peut-être.
Peut-être, mais on n'est pas parti pour ça du tout.
Pas tout de suite, puis je me souviens plus si c'était avec toi, j'en parlais, mais... c'est l'implication du gouvernement pour forcer la sécurité, les standards et tout. Personne veut ça, mais le marché privé est tellement pas à ses affaires que ça va arriver malheureusement. C'est ça, on n'aura pas le choix. Ça va avoir lieu. Ils mettront pas en place les standards, quoi faire, mais ils vont mettre des choses pour dire vous devez faire un minimum. On va avoir un beau standard.
Ils vont faire comme
les gens.
Ils vont faire comme toutes les choses. Ouais, ça va être même plus que des ISO, ça va être assez terrible parce qu'on va se retrouver avec des règles comme les règles du bâtiment, toutes des règles hyper normatives, hyper structurées, puis qui vont. Puis les gens ont énormément peur, puis probablement avec raison, qu'ils font anéantir toute innovation parce que ça va devenir tellement rigide. Parce que, comme en santé, ou surtout, ben, en tout cas aux États-Unis, parce qu'on entend plus, c'est très difficile d'aborder une nouvelle technologie parce que la quantité d'étapes à passer normatives pour arriver à vendre un produit est telle que ça n'a aucun sens. Fait qu'il y a peu d'innovation qui se rendent parce que c'est excessivement dispendieux. Fait que malheureusement, comme industrie, on n'est même pas capable de se discipliner. Fait qu'on s'en va vers un modèle comme ça, comme en automobile aussi, comme partout.
Yes. Il y a au moins des initiatives en place, je pense que c'est IMA Cavalry ou quelque chose comme ça aux États-Unis. Je me rappelle jamais comment ils le prononcent. Qui vont pousser de la sécurité au niveau justement tout ce qui est automobile, critique médicale et autres. Mais c'est un des seuls groupes de quelques personnes qui le font. Il en faudrait énormément plus pour se remettre sur le droit chemin. Là. On verra ce que ça donne.
Oui, parce qu'il faut pas que le législateur s'en mêle, parce que là, ça va être le bordel. Là.
Non, exact. Quand on travaille au gouvernement, s'ils vont nous imposer quelque chose de similaire à ce qu'ils font, ça va nécessairement briser l'innovation, la créativité et bien des choses. Mais bon, on verra. Mais en même temps, on a besoin de quelque chose pour que le monde se botte le cul. Fait que quand ça va tomber dans les nouvelles, peut-être que ça va bouger. Continuons avec d'autres nouvelles un peu plus techniques. Un point intéressant de Google, leur two-step verification, le two-factor auth. Ils ont finalement poussé le concept d'avoir un pop-up dans l'écran pour offrir un two-step verification. Fait que tu te logues dans un site web, puis au lieu de recevoir un code par SMS ou d'utiliser une autre application, rentrer dedans, mettre un mot de passe, tu as tout simplement l'application qui va t'afficher une fenêtre disant « voulez-vous autoriser oui ou non ». C'est un des concepts utilisés par la plupart des compagnies comme Duo ou autres qui font du two-step verification, puis finalement Google l'a mis en place. Puis il faut comprendre que le two-step via SMS, c'est vraiment pas le plus sécuritaire. C'est bien, mais il est possible de soit voler, spoofer ou whatever les cartes SIM des téléphones cellulaires. Il y a eu beaucoup de cas où des personnes faisaient du social engineering, appelaient dans un fournisseur de téléphone, se faisaient passer pour l'autre personne. Il disait « Hey, j'ai acheté une nouvelle carte, peux-tu mettre mon numéro de téléphone sur telle carte SIM? » La personne faisait une demande de SMS et recevait le code de l'autre personne. Ça désactivait le téléphone de l'autre en plus, volait tous les comptes, tous les courriels et game over. Donc, un bon step sécurité dans ce sens-là. C'est bien pour ça. ça fait changement de tout le reste. Puis, une autre nouvelle, ben en fait, pour l'approcher, on va, techniquement, Nick, tu vas me confirmer ça, mais on est supposé d'enregistrer un podcast au DEFCON la semaine prochaine.
Ouais, ben je te confirme. Ben toi, tu ne m'as pas confirmé, par exemple.
Yes, yes, je confirme. Je ne sais juste pas quand, mais on va faire ça.
Ouais, ben c'est ça, il faut statuer la date là, d'enregistrement, mais oui.
Effectivement. Puis parlant justement d'aller au DEFCON, il y a beaucoup de sécurité, les douanes et tout qui sont en place. Puis il y a une nouvelle qui est sortie disant que les agents de douane qu'on voyage vers les États-Unis n'ont techniquement pas le droit d'analyser les services dans le cloud, les données, les réseaux sociaux et tout ça. Mais je ne sais pas trop comment ça va durer, considérant Trump et tout ça, qu'est-ce que ça va faire. Mais techniquement, il n'y aurait pas le droit, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui se font soit saisir ou attendre des heures aux douanes quand il y a quelque chose. Donc, à voir ce que ça va donner. Si vous voulez lire, il y a plus de détails dans les show notes. Puis je pense que tu avais une nouvelle similaire à ça, justement, des aéroports qui ferment leur test de sécurité, Nick.
Ouais, ben régulièrement, les TSC se fait tester. Puis, dans ce cas-ci, une nouvelle qui a été leakée parce que semblerait que l'aéroport n'était pas très content d'apprendre que ces statistiques ont sorti. Mais de ce qui en est sorti, 80... Un instant. Hop. 95% des tests de sécurité ont échoué sur leur test. Fait que c'est essentiellement, les gens sont capables de passer du stock sans que les gens de la TSC soient capables de contrôler. Par contre, de ce que j'ai vu, de ce qui est relaté dans l'article, ils ont l'air d'aller beaucoup plus loin ou des contrôles normaux qu'on trouve au niveau des douanes qui disent qu'ils ont échoué, mais ça, je ne suis pas tellement préoccupé parce que moi, ma préoccupation dans l'avion, c'est qu'elle n'explose pas. Donc, j'espère que la TSA ou CATSA au Canada ou peu importe l'agence dans le pays sont en mesure d'intercepter quelqu'un qui voudrait faire exploser dans l'avion, surtout dans l'avion dans lequel je suis, parce que j'aime pas que mon avion explose. Mais essentiellement d'assurer une certaine forme de sécurité associée à ça. Fait que, tu sais, en ça, je suis un peu peiné de savoir que toutes leurs choses ne fonctionnent pas, mais en même temps, comme il n'y a pas eu beaucoup d'explosions dernièrement, on peut assumer que malgré tout, même si ces tests-là qui sont faits ultimement pour tromper le système aussi, ont été concluants. Mais...
Ouais, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Je pense que ça fait 3-4 ans, TSC avait eu justement des tests, puis il avait échoué à 98%. Là, c'est 95. C'est quand même pas super.
Ouais, ben, c'est un aéroport spécifique en plus. Il parle pas d'un élément sur l'ensemble du territoire américain, de tous les aéroports. J'imagine les aéroports plus mieux financiers disposent de meilleure technologie.
Oui, il y a plusieurs endroits. Ben, en fait, chaque aéroport est totalement différent. Les meilleurs qui sont structurés, qui sont faits. Si vous voyagez un peu, vous savez que certaines n'ont aucun sens de la manière que les foules sont gérées, la sécurité, c'est la même chose.
Ouais, c'est un peu farfelu. C'est des aéroports, des fois les souliers tu les enlèves, des fois tu les enlèves pas, des fois tu enlèves ta ceinture, des fois tu l'enlèves pas. Tu as tes protocoles qui sont différents d'un aéroport à un aéroport à l'autre. Donc pour le voyageur, c'est déjà un peu troublant de ne pas toujours avoir le même protocole à suivre puis arriver aller jusqu'au bout.
Exact. On aime ça voyager. C'est la partie la plus chiante. Mais dans quelques jours, ça sera ça. Et une autre nouvelle, l'avant-dernière, Nick, au niveau d'Amazon et la petite machine Alexa et ses transcripts.
Ouais, ben c'est ça. Semblerait qu'Amazon va rendre disponible aux développeurs qui développent des applications pour Alexa les transcripts complets de ce que du texte qui est envoyé où la personne discute avec la boîte. Ce qui fait que c'est un peu plus troublant sur la protection de la vie privée parce que l'ensemble de ce qui est capté sonore va pouvoir être utilement renvoyé. Et le transcript complet, tu parlais juste du transcript, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'il dit qui capte pas ce que genre ta blonde dit en même temps, tout ce qui se passe autour. Fait qu'on a aucune idée du contenu du transcript. Et tout ça est envoyé à un tiers parti dans lequel on n'a aucun contrôle. Fait que ça, mettons, ça met une douche assez froide sur l'utilisation de ces assistants personnels-là avec qui on peut discuter.
Oui, exact. Que ce soit eux, Google ou autre, le concept, c'est voice activation. Quand quelqu'un parle, ça enregistre puis ça envoie tout de l'autre côté. Là, c'est une des confirmations qui disent que c'est utilisé en plus pour toutes les devs. Non, je veux pas de petite boîte chez moi.
Ouais, ben c'est ça, c'est une douche assez froide là, parce que tu sais, moi qui t'es intéressé par ce, essentiellement ce genre de choses-là, comme pour la plupart des gens qui veulent tester les choses, puis pour se rendre compte finalement que ce que cette boîte-là peut capter puis l'envoyer à n'importe qui s'enregistre comme développeur, puis il n'est pas dit qu'une compagnie malicieuse voudrait pas s'enregistrer spécifiquement pour mener une forme d'attaque sur ce genre de choses-là. Fait que c'est assez troublant parce que il y a beaucoup d'informations personnelles qui circulent là-dedans.
Ouais, ouais, exact. En fait, tout ce que vous dites. Un peu terrible. Pour finir sur une note un peu plus drôle, Richer, les stations de radio au UK, ça a l'air le fun là-bas?
Oui, donc dans le fond, il y en a une station de radio là-bas qui s'est fait attaquer jusqu'à 8 fois dernièrement. Et donc, ils ont, en réalité, la personne qui a attaqué avait une radio qui était plus puissante que l'antenne en tant que telle et qui était capable de pouvoir faire jouer de la musique ou bien qui se mettait à crier tout simplement sur le poste de radio et faisait jouer des musiques obscènes des années 70, plusieurs choses comme ça. Donc, toutes des choses bien le fun que j'imagine que le poste de radio est très content de pouvoir avoir. Puis, donc, ils ont fait ça. Et puis, il y a eu 3 tentatives qui ont fait pour essayer de retracer d'où venait le signal de la radio, et ils n'ont pas réussi jusqu'à date. Donc, c'est troublant parce que les autres stations de radio aussi autour ont peur que ça leur arrive aussi parce qu'ils sont pas vraiment à l'abri de ça. Parce qu'en réalité, c'est vraiment une attaque on pourrait dire low-tech, justement parce que c'est pas grand-chose d'autre que dire « je parle plus fort que toi, fait que les autres vont m'entendre moi au lieu de toi ». Donc, en réalité, c'est très, très, très de base. Et à moins qu'ils mettent des radios vraiment plus puissantes, encore là, c'est juste un jeu de chat et de la souris. Donc, à moins qu'ils puissent trouver une autre façon de pouvoir faire ça, je crois pas que d'ici, à court terme, ils puissent régler ce problème-là ou qu'ils puissent le prévenir. Donc, c'est un peu turbulent. Exact. Je comprends.
La seule prévention qu'ils peuvent faire, c'est essayer de trianguler la personne qui l'envoie le signal pour l'arrêter. Mais à part ça, plus ou moins.
Ouais. Mais c'est ça, mais pour pouvoir le trouver, c'est une chose, mais pour être capable d'empêcher
non,
ces
non,
choses-là, c'est ça justement, c'est pas quelque chose qui est faisable à court terme.
Non.
Donc c'est troublant.
Exact. Puis ça peut arriver pas mal partout, je dirais, comme concept, mais ouais, à moins que leur antenne là-bas soit vraiment moins puissante qu'en général, là, mais assez simple, low-tech, comme tu dis. Yes.
Oui, effectivement.
Donc, ça conclut nos nouvelles. Ce mois-ci, on a une panoplie de shameless plugs. Fait qu'on peut commencer ça. En fait, Paul, qui n'est pas là, a créé un site web qui vaut vraiment la peine, qui est super cool. cfptime.org. En fait, c'est Call for Paper Time. Toute la liste des Call for Paper, des conférences, que ce soit le Hackfest ou autre, sont affichés là par ordre chronologique de quand le Call for Paper se termine. Donc, allez voir ça si vous voulez soumettre des talks et des conférences. C'est un très bon site pour ça, qui rassemble la plupart des conférences connues. Donc, très cool. Et dans les shameless plugs du Hackfest, les formations sont en ligne pour vous inscrire. Puis, on a des formations vraiment cool cette année. On a le CST du Canada qui offre Assembly Programming for Reverse Engineer à 90$. C'est un cours qui vaut peut-être 3 000 à 5 000$ généralement. 3 journées pour apprendre la programmation en assembleur pour faire du reverse engineering. Ça vaut la peine. Connaissance de base requise en assembleur, mais d'ici la Hackfest, si vous mettez 1 ou 2 semaines de soir, vous devriez être correct pour vous mettre à jour. Sinon, on a 2 formations qui sont présentement offertes au Black Hat à la fin juillet pour 1200 Canadiens. Au Black Hat, c'est environ 5000 US, donc 3 millions Canadiens à peu près. Mais super intéressant, c'est des personnes qui donnent toujours des trainings là-bas, qui sont super avancées. On a le IoT, Practical Internet of Things Exploitation, donc comment faire du hacking de firmware, comment extraire les données des firmware et autres, comment les exploiter, les faire rouler, les processus, les méthodes. Et même concept, mais mobile application exploitation, donc comment hacker les iOS et les Android. Et finalement, on offre toujours le sécurité 101, 102 pour toute personne qui désire apprendre la sécurité applicative de base, les outils, etc., créés par l'ACFES. Et une formation qui sera affichée sous peu, le web hacking, qui sera gratuit et sponsorisé par HackerOne, par même le professeur et deux personnes, en fait, un qui est le fondateur de HackerOne et un autre qui est un gars qui fait beaucoup de bug bounty. Donc, à ne pas manquer, une des meilleures formations web que vous pouvez suivre dans ces années-ci. Fait que beaucoup de shameless plugs, mais plein de formations le fun. N'hésitez pas, la plupart sont vraiment pas chères. Et ça fait pas mal le tour. D'autres points, messieurs?
Pas dans les chaînes SMS Club, mais faire un suivi sur ce que j'avais dit dans le dernier podcast, c'est Lettuce 4 est maintenant en version finale. Sinon, ben l'été est le fun.
Yes! La piscine, la bière et le DEFCON. Merci à tout le monde. Merci Richer.
Salut!
Et on se reparle bientôt. Bye tout le monde.
Bye!
Salut là!